Troisième partie. Le printemps des crimes. Chapitre 1. La famine. La misère des hommes de France fut plus grande cette année-là qu'elle ne l'avait été depuis 100 ans, et le fléau des siècles passés, la famine, réapparut. À Paris, le prix du boisseau de sel atteignit 10 sous d'argent, et le setier de froment se vendit jusqu'à 60 sous, taux jamais atteint. Cet anormal enchérissement résultait certes, en premier lieu, de la désastreuse récolte de l'été précédent, mais il était dû aussi, pour une bonne part, à la désorganisation de l'administration, à l'agitation que les ligues baronniales entretenaient en plusieurs provinces et qui rendait les échanges difficiles, à la panique des gens qui avaient engrangé par peur de manquer, à l'avidité enfin des spéculateurs. Février est le plus terrible mois à franchir durant les années de disette. Les dernières provisions de l'automne sont épuisées, de même que la résistance des corps et des âmes. Le froid s'ajoute à la faim. C'est le mois où l'on meurt le plus. Les gens désespèrent de revoir jamais le printemps, et ce désespoir chez les uns se tourne en abattement, et chez les autres en haine. À prendre trop souvent le chemin du cimetière, chacun se demande quand viendra son tour. Dans les campagnes, on mangeait les chiens qu'on ne pouvait plus nourrir, et l'on chassait les chats redevenus sauvages. Faute de fourrage, le bétail crevait et l'on se battait autour des rebuts d'écarissage. Des femmes arrachaient l'herbe gelée pour la dévorer. On savait que l'écorce de hêtre faisait une meilleure farine que l'écorce de chêne. Des adolescents se noyaient chaque jour sous la glace des étangs pour avoir voulu y prendre du poisson. Il n'y avait presque plus de vieillards. Les menuisiers, hâves et surmenés, clouaient sans relâche des cercueils. Les moulins étaient muets. Des mères folles berçaient des cadavres d'enfants. Parfois, on assiégeait un monastère, mais l'aumône était sans pouvoir quand il ne restait rien à acheter que des suaires. Parfois, des hordes titubantes montaient des champs vers les bourgs, dans le vain rêve de s'y faire donner du pain, mais elles se heurtaient à d'autres hordes d'affamés qui venaient de la ville et paraissaient avancer vers le jugement dernier. Il en était ainsi dans les régions réputées riches, comme dans les régions pauvres. En Artois, aussi bien qu'en Auvergne, en Poitou comme en Champagne, en Bourgogne comme en Bretagne, et même en Valois, en Normandie, en Beauce, et même en Brie, et même en Île-de-France. Il en était ainsi à Naufle et à Cresset. La malédiction qui, depuis un an, accablait la famille royale, semblait s'être étendue pendant l'hiver au royaume tout entier. Guccio, lorsqu'il était revenu d'Avignon à Paris en escortant Bouville, avait bien traversé cette affliction. Mais, logeant dans les prévôtés ou les châteaux royaux et muni de bon or pour satisfaire au prix démesuré des auberges, il avait regardé la disette d'assez haut. Il ne s'en souciait pas davantage une semaine après son retour, en trottant sur la route de Paris à Naufle. Son manteau fourré était chaud, sa monture bien allante, et il courait vers la femme qu'il aimait. Il polissait les phrases par lesquelles il allait raconter à la belle Marie de Cresset comment il avait parlé d'elle avec Madame Clémence de Hongrie, bientôt peut-être reine de France, et comment son souvenir ne l'avait pas quitté un seul jour, ce qui était d'ailleurs la vérité. Car les infidélités fortuites n'empêchent pas de songer, bien au contraire, à qui l'on est infidèle. C'est même la manière la plus fréquente qu'ont les hommes d'être constants. Et puis, il décrirait à Marie les splendeurs de Naples. Et il se sentait vêtu des prestiges du voyage et des hautes missions. Il venait se faire aimer. Ce ne fut qu'au voisinage de Cresset, parce qu'il connaissait bien le pays et lui vouait tendresse, que Guccio commença d'ouvrir les yeux sur autre chose que sur soi-même. Le désert des champs, le silence des hameaux, la rareté des fumées qui s'élevaient des masures, l'absence d'animaux, l'état de maigreur et de saleté des quelques hommes rencontrés, et surtout leurs regards, donnèrent au jeune Toscan un sentiment de malaise et d'insécurité. Et lorsqu'il pénétra dans la cour du vieux manoir au-dessus du ruisseau de la Maudre, il eut l'intuition du malheur. Pas un coq sur le fumier, pas un meuglement du côté des étables, pas un aboi de chien. Le jeune homme avança sans que quiconque, serviteur ou maître, parût à son approche. La maison semblait morte. « Sont-ils tous partis ?» se demanda-t-il. « Les a-t-on saisis pendant mon absence ? Qu'est-il arrivé ? Ou bien la peste aurait-elle sévi par ici ?» Il noua les rênes de son cheval à un anneau du mur et entra dans le corps du logis. Il se trouva en face de Madame de Crécy.
« Oh, Monsieur Guccio !» s'écria-t-elle. « Il me semblait bien. Vous voici donc !»
Des larmes étaient venues aux yeux de Dame Eliabelle, et elle prit appui sur un meuble, comme si la surprise la faisait vasciller. Elle avait maigri de 20 livres et vieilli de 10 ans. Elle flottait dans sa robe qui, naguère, se tendait bien fort sur ses hanches et sa poitrine. Elle montrait une mine grise et des joues affaissées sous sa guimpe de veuve. Guccio, pour dissimuler sa surprise à la voir si changée, regarda la grande salle autour de lui. Auparavant, on y percevait une certaine dignité de vie seigneuriale maintenue malgré de petits moyens. Aujourd'hui, tout y disait la misère sans défense, le dénuement désordonné et poussiéreux.
« Nous ne sommes point dans notre meilleur pour accueillir un hôte, » dit tristement Dame Eliabelle.
« Où sont vos fils ?»«
À la chasse, comme chaque jour. »
« Et Madame Marie ?» demanda Guccio.
« Hélas !»
fit Dame Eliabelle en baissant les yeux.
« Qu'est-il arrivé ?»
Dame Eliabelle haussa les épaules d'un geste de désolation.
« Elle est si bas, » dit-elle, « si faible que je n'espère plus qu'elle se relève jamais, ni même qu'elle atteigne Pâques. »«
Quel mal a-t-elle ? » dit Guccio avec une impatience anxieuse.
« Mais le mal dont nous souffrons tous et dont on meurt à foison par ici. La faim, signor Guccio. Pensez donc, si de gros corps comme l'était le mien sont tout épuisés, pensez aux ravages que la faim peut faire sur des filles encore à grandir.
Mais, par Dieu, Dame Eliabelle, s'écria Guccio, je croyais que la disette ne frappait que les pauvres gens.
Et qui croyez-vous que nous sommes sinon de pauvres gens? Ce n'est point parce que nous avons la chevalerie et un manoir qui croule que nous sommes mieux lotis. Tout notre bien, à nous, petit seigneur, est dans nos serres et dans le labeur que nous en tirons. Comment pourrions-nous attendre qu'ils nous nourrissent quand ils n'ont pas à manger pour eux-mêmes et viennent mourir devant notre porte en nous tendant la main? Nous avons dû tuer notre bétail pour le partager avec eux. Ajoutez à cela que le prévôt nous a obligés de lui fournir des vivres, d'ordre du roi, a-t-il dit, sans doute pour nourrir ses sergents, car ceux-là sont toujours bien gras. Quand tous nos paysans seront morts, que nous restera-t-il, sinon que d'en faire autant? La terre ne vaut rien. Elle ne vaut qu'autant qu'on la travaille, et ce ne sont point les cadavres qu'on y enfouit qui la feront produire. Nous n'avons plus ni valet ni servante. Notre pauvre boiteux.
C'est lui que vous appeliez votre écuyer tranchant ?
Oui, notre écuyer tranchant, dit-elle avec un sourire triste. Eh bien, il est parti pour le cimetière l'autre semaine, et tout à l'avenant.
Guccio hocha la tête d'un air de compassion, mais une seule personne dans tout ce drame lui importait.
« Où est Marie ? » demanda-t-il. « Là-haut, dans sa chambre. Puis-je la voir ? Venez. »
Guccio la suivit dans l'escalier qu'elle gravit d'un pas lent, marche à marche, en s'aidant de la corde de chanvre qui pendait le long du pivot de la vis. Marie de Crécy reposait sur un lit étroit, à l'ancienne mode, où les couvertures n'étaient pas bordées et où les matelas et les coussins étaient très élevés sous le buste, en sorte que la personne allongée semblait sur un plan incliné, les pieds piquant vers le sol.
« Messire Guccio, Messire Guccio !»
murmura Marie. Ses yeux étaient agrandis d'un cerne bleu, ses longs cheveux châtains et or étaient épars sur un oreiller de velours râpé jusqu'à la trame. Ses joues amincies, son cou fragile, présentaient une transparence inquiétante. L'impression de rayonnement solaire qu'elle donnait auparavant s'était effacée, comme si un grand nuage blanc fût passé au-dessus d'elle. Dame Eliabelle se retira pour éviter de montrer ses larmes.
« Marie, ma belle Marie, » dit Guccio en s'approchant du lit. « Enfin vous voilà. Enfin vous êtes de retour, j'ai eu si peur. » Oh, si peur de mourir sans vous revoir. »
Elle regardait intensément Guccio, et ses yeux contenaient une grande question inquiète. Inclinée comme elle se trouvait par l'étrange entassement des matelas, elle ne semblait pas absolument réelle, mais découpée dans quelques fresques, ou plutôt dans un vitrail aux perspectives redressées.
« De quoi souffrez-vous, Marie ?» dit Guccio. « De faiblesse, mon bien-aimé, de faiblesse. Et puis de la grande crainte que vous m'ayez abandonné.
J'ai dû aller en Italie pour le service du roi et partir si hâtivement que je n'ai pu vous en avertir. »
« Pour le service du roi ?» répéta-t-elle faiblement.
La grande interrogation muette était toujours au fond de son regard, et Guccio se sentit brusquement honteux de sa bonne santé, de ses vêtements fourrés, des semaines insouciantes passées en voyage. Honteux même du soleil de Naples, honteux surtout de la vanité qui l'emplissait jusqu'à l'heure précédente pour avoir vécu parmi les puissants de ce monde. Marie avança sa belle main amaigrie, et Guccio prit cette main. Et leurs doigts refirent connaissance, s'interrogèrent et finirent par s'unir, entrecroisés dans ce geste où l'amour se promet plus sûrement que par un baiser, comme si les mains de deux êtres se liaient pour une même prière. La question muette disparut alors du regard de Marie. Elle ferma les paupières et ils restèrent ainsi un moment sans parler.
« Il me semble à tenir vos doigts que j'y puise force, » dit-elle enfin.
« Marie, voyez ce que je vous ai rapporté. » Il tira de son aumônière deux plaques d'or fines et gravées, incrustées de perles et de pierres cabochons, comme il était de mode alors dans les classes riches d'en coudre au col des manteaux. Marie prit les plaques et les éleva jusqu'à ses lèvres. Guccio eut un serrement de cœur, car un bijou, fût-il ciselé par le plus habile orfèvre de Florence ou de Venise, n'apaise point la faim. Un pot de miel ou de fruits confits eût été aujourd'hui un meilleur présent, pensa-t-il. Et une grande hâte d'agir le saisit.
« Je vais aller chercher de quoi vous guérir, » s'écria-t-il. « Que vous soyez là, que vous pensiez à moi, je ne demande rien d'autre. Partez-vous déjà,
je serai de retour dans peu d'heures. » Il allait franchir la porte.
« Votre mère, c'est elle ?» dit-il à mi-voix.
Marie fit des paupières un signe négatif.
« Je n'ai point voulu disposer de vous, » répondit-elle. « C'est à vous de disposer de moi, si Dieu veut que je vive. »
En redescendant dans la grande salle, Guccio trouva Dame Eliabelle en compagnie de ses deux fils qui venaient de rentrer. Le visage creux, les yeux brillants de fatigue, les vêtements déchirés et mal rapiécés, Pierre et Jean de Cresset portaient eux aussi les marques de la détresse. Ils témoignèrent à Guccio la joie qu'ils avaient de revoir un ami, mais ils ne pouvaient se défendre d'un peu d'envie et d'amertume à contempler l'aspect prospère du jeune Lombard. « La banque, décidément, se défend mieux que la noblesse, » pensait Jean de Cresset. « Notre mère vous a raconté, et puis vous avez vu Marie, » dit Pierre. « Admirez notre chasse de ce matin. Un corbeau qui s'était rompu la patte et un mulot. » L'honnête bouillon pour toute une famille, que l'on va faire avec cela? Que voulez-vous? Tout est piégé. On a beau promettre le bâton aux paysans s'ils chassent pour eux-mêmes, ils préfèrent recevoir le bâton et manger le gibier. À leur place, on en ferait autant. Il ne nous reste que trois chiens. Les faucons milanais que je vous ai donnés l'automne passé vous font-ils bon service, au moins? Demanda Guccio. Les deux frères baissèrent les yeux d'un air gêné. Puis Jean, l'aîné, se décida à dire, en tirant sur sa barbe, « Nous avons dû les céder au prévôt portefeuille pour qu'il consentît à nous laisser notre dernier port. D'ailleurs, nous n'avions plus de quoi les acharner. »« Vous avez eu grandement raison, » répondit Guccio. « À l'occasion, je vous en procurerai d'autres. »« Ce blaireau de prévôt, » s'écria Pierre de Cresset, « ne s'est point fait meilleur, je vous jure, depuis la fois que vous nous avez tiré de ses griffes. Il est à lui seul pire que la disette, et il en double le mal. »
« J'ai vergogne, messire Guccio, de la petite chair que je vais vous offrir à partager, » dit la veuve.
Guccio mit à son refus beaucoup de délicatesse, alléguant qu'il était attendu à son comptoir de naufle.
« Je vais faire en sorte aussi de vous découvrir quelques victuailles, » ajouta-t-il. « Vous ne pouvez continuer ainsi, et surtout votre fille. »«
Nous vous avons moult grâce de votre pensée, » répondit Jean de Cresset. « Mais vous ne trouverez rien, hors l'herbe, au long des chemins. »«
Allons donc !» s'écria Guccio en frappant sur sa bourse. « Je ne serai point Lombard si je n'y réussissais. L'or même n'est plus d'utilité. C'est bien ce que nous verrons. »
Il était dit que Guccio, à chacun de ses passages dans cette famille, y jouerait le chevalier sauveur et non le créancier. Il ne songeait même plus à la dette de 300 livres jamais acquittée depuis la mort du sire de Crécy. Il piqua vers Naufle, persuadé que les commis du comptoir Ptolomée le tireraient d'affaire. Tels que je les connais, ils ont dû prudemment engranger, ou bien ils savent où se fournir lorsqu'on a les moyens de payer. Mais il surprit les trois commis serrés autour d'un feu de tourbe. Ils avaient la mine cireuse et le nez tristement pointé vers le sol. « Depuis 2 semaines, tout trafic est arrêté, signor Guccio, » lui déclara le chef du comptoir. « On ne fait même point une opération par jour. Les créances ne rentrent pas et il n'avancerait à rien d'ordonner saisie. On ne prend pas le néant. »« Des provisions de bouche ?» Il haussa les épaules. « Nous allons faire festin tout à l'heure d'une livre de châtaigne, » poursuivit-il, « et nous en lécher les lèvres pendant 3 jours. Vous avez encore du sel à Paris ? C'est le manque de sel, surtout, qui fait dépérir. Si vous pouviez seulement nous en faire parvenir un boisseau. Le prévôt de Montfort en a, mais il ne veut point le distribuer. Celui-là n'est privé de rien, soyez-en certains. Il a rançonné tout l'alentour comme pays en guerre. Mais c'est une vraie peste, en vérité, que ce portefruit !» s'écria Guccio. « Je m'en vais lui parler, moi. Je l'ai déjà maté une fois, ce voleur. »« Signor Guccio !» dit le chef du comptoir, voulant engager le jeune homme à la prudence. Mais Guccio était déjà dehors et remontait à cheval. Un sentiment de haine comme il n'en avait jamais connu lui écartelait la poitrine. Parce que Marie de Crécy était en train de mourir de faim, il passait du côté des pauvres et des souffrants. Et à cela seul, il eût pu s'apercevoir que son amour était vrai. Lui, le Lombard, l'enfant de l'argent, il prenait brusquement parti pour le clan de la misère. Il remarquait à présent que les murs des maisons semblaient suer la mort. Il se sentait solidaire de ces familles chancelantes qui suivaient des cercueils, de ces hommes à la peau collée sur les pommettes et dont les regards étaient devenus des regards de bêtes. Il allait planter sa dague dans le ventre du prévôt portefruit. Il y était décidé. Il allait venger Marie, venger toute la province et accomplir un geste de justicier. Il serait arrêté, bien sûr. Il voulait l'être et l'affaire irait loin. Son oncle Ptolomée remuerait ciel et terre. Messire de Bouville et Monseigneur de Valois seraient avertis. Le procès viendrait devant le Parlement de Paris et même devant le roi. Et alors Guccio s'écrierait « Sire, voilà pourquoi j'ai tué votre prévôt !»